à Bloc Radio.
La deuxième partie de l'émission avec Florence Aubenas. On va lui poser quelques questions avec Mohini, Hugo et Stéphie. Est-ce que vous préparez vos questions avant un reportage ou bien êtes-vous davantage dans l'improvisation ?
Ça dépend des reportages, mais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut préparer, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir ce à quoi on veut arriver. Et il faut savoir rester un peu souple, c'est-à-dire pouvoir changer son fusil d'épaule très vite si la situation n'est pas celle qu'on pensait. Pour aller vite, il faut tout savoir avant de partir et tout oublier en arrivant. C'est souvent, quand on prépare trop et qu'on ne sort pas du cadre de ce qu'on a préparé, on a quelque chose de trop fermé. C'est-à-dire que quand on pose une question, il faut pouvoir rebondir derrière si la réponse n'est pas celle que vous pensez. Imaginez, si je vous répondais à votre question, non, je ne prépare jamais rien et je pense qu'il ne faut rien préparer parce que ça ne sert à rien. Vous pourriez en être étonné, me dire, mais pourquoi vous dites ça ? C'est-à-dire qu'une réponse, elle appelle parfois à rebondir sur ce qu'on vient de dire. Et si vous avez votre liste devant les yeux et que vous posez la question suivante qui n'a rien à voir... c'est dommage parce que une interview, c'est aussi un peu un entretien. Hein, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que il faut pouvoir répondre, discuter d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est la difficulté et l'art de ça, de l'interview, est très exactement ça. C'est de savoir comment rebondir, comment être agressif sans l'être, ne pas laisser passer. J'imagine que vous, quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, des fois vous vous dites, mais pourquoi elle ne pose pas cette question ? Pourquoi il répond ça ? Comment ? Mais ce n'est pas vrai, il devrait relancer. Et donc, voilà, c'est comme ça.
Est-ce que vous choisissez vos sujets de reportage ?
Ça dépend. Parfois, oui. Mais souvent, je travaille beaucoup en quotidien et souvent, en quotidien, l'actualité impose le choix des sujets. Mais c'est à peu près moitié-moitié. Donc moi, il y a des sujets qui m'intéressent et que je vais traiter, que je vais choisir. Je vous donne un exemple. Là, le dernier sujet que j'ai fait pour le journal était sur une peintre tzigane dont on a découvert son œuvre. Tout à coup, tout était accumulé dans un appartement et personne ne savait que c'était un grand peintre. Et tout à coup, on a découvert tous ces tableaux empilés, un peu comme si on n'avait jamais exposé Picasso et qu'on découvrait tous les Picasso une fois qu'il est mort. Et donc, je racontais cette histoire. C'est une histoire que j'ai apprise moi et que quelqu'un m'a racontée et que donc j'ai décidé de faire ce sujet. Ce n'est pas le journal qui me l'a demandé. Mais en revanche, là, je suis en train de faire un sujet sur les élections, c'est le journal qui me l'a demandé. Les deux sont bien. Quand on ne fait que des sujets qu'on choisit soi, on a tendance à parfois tourner un peu en rond. C'est-à-dire qu'on a tous des sujets de prédilection, on a tous des choses qu'on préfère à d'autres. Et on risque de ne rester que sur ses propres préoccupations. C'est bien des fois de sortir de soi-même.
Et vous, quels sont vos sujets de prédilection ?
Voilà. Moi, c'est terrible. J'aime tout. J'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime beaucoup ce que j'aime, moi, c'est les reportages où il faut partir longtemps, où on ne sait pas trop quand on rentre, où il y a une forme. Là, je vous parle un peu de la forme, une forme d'aventure, une forme de découverte du sujet. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et j'aime bien les sujets longs, les sujets. Plus avec des gens, j'allais dire, un peu comme ici, voilà, on est tous des humains ordinaires vivant en France. Je préfère ça qu'interviewer le directeur.
Oui.
Bah, comment ça, oui. Petite insolente.
Thank you.
Est-ce que vous parlez plusieurs langues ?
Oui, je parle anglais, je parle allemand, je parle italien et je parle un peu espagnol. Mais je demande à m'améliorer, mais j'espère y arriver.
Depuis quand ?
Depuis quand je parle espagnol ?
Depuis quand vous parlez ces langues ?
Ça dépend lesquelles. Il y en a deux que j'ai apprises à l'école qui sont... Alors j'avais fait un très mauvais choix, vous voyez, hein, parfois. J'avais choisi, alors là je vous le donne en mille, allemand-italien, ça sert à... Moins de choses, en tout cas, que l'anglais et l'espagnol. Donc ça, les deux, je les ai apprises à l'école. Et donc, voilà, donc je les parle... L'italien, je le parle vraiment bien. Donc, ça a été une... j'ai adoré l'Italie. Donc, j'y allais très volontiers. Donc, voilà, ça, c'est très... Voilà, c'est, ça aide beaucoup à apprendre les langues, de pouvoir s'y déplacer. Et donc, l'allemand aussi. Donc, je suis allée en Allemagne, etc. Donc, j'aime bien la culture allemande, le pays, donc les deux m'ont plu. Ensuite, l'anglais, je l'ai appris quand je suis devenue journaliste, parce que si on ne parle pas anglais, c'est même pas la peine de demander la carte de presse. Donc, je l'ai appris comme ça, sur le tas, j'allais dire, en me déplaçant dans des pays. Voilà, donc je parle un anglais. Vous savez qu'on parle, on appelle ça le broken English. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est l'anglais. De personnes qui ne sont pas anglophones et qui parlent ensemble l'anglais comme une langue commune. Donc quand je vais aller en Afghanistan, je vais parler anglais avec des gens qui ne sont pas anglais, et moi je ne suis pas anglaise, mais c'est notre langue commune. Comme le français l'a été à une époque, au 19e siècle, le français était la langue commune en Europe. Bon, maintenant c'est l'anglais. Et l'espagnol, je ne sais pas si je dois vous dire la raison, elle est très personnelle, c'est que j'ai eu longtemps un fiancé espagnol. Enfin, parlant espagnol. Et donc, c'est une très bonne façon aussi d'apprendre la langue.
Qu'est-ce que la liberté pour vous ?
Qu'est-ce que la liberté pour moi ? Oh là, dites donc. La liberté, c'est d'être là avec vous, d'avoir l'attitude de pouvoir énoncer ce qu'on pense et le faire dans... Voilà, dans le, c'est tellement vaste, si vous voulez, très souvent pour la liberté, la justice, ou ces choses-là, on dit, il y a cette formule... facile, j'allais dire, que la liberté, ça, on dit souvent, ça n'existe pas. La liberté ou la justice, ça n'existe pas. Il n'y a que des preuves de liberté et des preuves de justice et des preuves de tant de choses. Et donc, des preuves de liberté en France, c'est de pouvoir dénoncer quelque chose qui ne va pas, c'est de pouvoir agir comme on en a envie dans une certaine mesure, etc. Donc, je pense que c'est ça. Mais l'intérêt de ça, c'est que on ne peut jamais se reposer en disant « ça y est, le stade de liberté est atteint et c'est plus la peine de se poser des questions, on est en liberté en France et une fois pour toutes ». En fait, on se rend compte aujourd'hui que tout un tas de choses qui semblent acquises, en fait, on a toujours l'impression, vous savez, quand on s'est battu pour quelque chose, une cause sociale ou la liberté de la presse, par exemple, ou peu importe une liberté, on se dit, une fois qu'on l'a eue, qu'on l'a arrachée, eh bien, ça, on est d'accord, on s'est fait une fois pour toutes. Et en fait, on se rend compte assez souvent que ces droits-là... Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'il n'y avait pas de marche arrière possible. Une fois qu'on a gagné la liberté de la presse, eh bien, c'est fait une fois pour toutes. Il n'y a plus de censure, ça n'existera plus. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque fois... Il faut réaffirmer qu'on est libre. Il n'y a pas une liberté acquise. Il y a une liberté qui se fait dans les petites choses et tout le temps. Et donc, pour moi, c'est ça. S'il fallait donner une définition de la liberté, je dirais que c'est une bataille.
Pourquoi avez-vous accepté de venir dans notre lycée nous rencontrer ?
Parce que je suis curieuse. Et donc, c'est vrai que Auch, c'est un coin dans lequel on vient rarement. Et j'étais très impatiente de faire votre connaissance à tous. Donc, je me disais, ça c'est intéressant, un lycée comme le vôtre, où a priori, on est... Allez, pour aller vite, ici, vous êtes obligé de faire un certain nombre de matières. Vous êtes obligé de faire français, vous êtes obligé de faire anglais, j'imagine, de faire un peu de maths, peut-être. Oui. Voilà. Mais la radio, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Du journalisme, vous n'êtes pas obligé. Personne ne va vous dire, dites donc, vous n'avez pas de bonne note en journalisme. Le journalisme, ce n'est pas au programme. Et ça m'intéressait de voir des gens qui avaient mis volontairement le journalisme au programme. Moi, le journalisme, c'est mon métier et c'est vraiment la chose qui me plaît à défendre tous les jours. Et que des jeunes gens comme vous, à qui on n'a pas demandé ça, le choisissent aussi, je me suis dit, on a forcément quelque chose à se dire. Et donc voilà, je voulais voir vos têtes, entendre vos questions, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous demandez. Et alors, il y a une chose que j'aime beaucoup, quand on est avec des jeunes journalistes comme vous, après tout, hein, je vous le dis encore une fois qu'on est collègues, on est, j'imagine, vous êtes comme moi, curieux. Et être journaliste, le grand avantage, c'est qu'on peut poser les questions, on peut demander tout ce qu'on a en tête. Et très souvent, on se rend compte que la difficulté dans le métier, c'est de commencer à faire ça. Je voyais tout à l'heure, quand on discutait entre nous, c'est difficile de poser des questions. Et donc, on est là, à la fois on en a envie, à la fois on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça a à faire, etc. Et c'est ça, être journaliste, c'est réussir à imposer ça, à aller jusqu'au bout des questions qu'on se pose, sans soi-même se censurer. C'est souvent ça le problème des journalistes, c'est qu'ils se disent « Oh, ça, je ne vais pas le demander parce que alors là, ça va être trop grave, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va le prendre ?» Puis alors moi, je vais dire « Demander ça tout haut, ce n'est pas possible, etc. » Et or, le journalisme, c'est ça, c'est prendre ce culot.
Quel conseil pouvez-vous nous donner pour progresser dans la radio, dans le journalisme ?
Dans le journalisme, je trouvais que vos choix de sujet étaient intéressants parce que vous avez choisi de rencontrer des choses tout à fait différentes de vous. C'est-à-dire que ce qui est difficile dans le journalisme, c'est de se confronter à quelque chose de tout autre que soi. C'est-à-dire... je ne sais pas ce que vous pensez d'un jeune homme qui arrive en France à 17 ans, comme ce jeune garçon qui a escaladé le mur à Melilla. Mais c'est sûr qu'on n'en a pas forcément une image formidable. Il y a des gens qui se disent, ces gens arrivent, il faut les aider. D'autres qui disent, mais pourquoi il vient en France alors qu'il sait qu'il n'y a pas de boulot. Il y a 1000 réactions. Et d'aller voir... ce qu'il y a derrière une image aussi forte que celle d'un migrant pour aller vite, je trouve que c'est une très bonne démarche. C'est-à-dire que d'aller voir ce que recouvre un terme qui est brandi à toutes les sauces aujourd'hui sur la place publique française. Donc moi, mon conseil, c'est de multiplier ça. Allez voir ce qui vous dérange. N'allez pas voir ce qui vous arrange, allez voir ce qui vous dérange. Ce sur quoi vous dites, ça, je ne sais pas quoi en penser. Ça, le journalisme, c'est... ce qui est intéressant dans le journalisme, c'est de commencer à penser contre soi-même, contre ce qu'on avait dans la tête avant, contre ses a priori. Et c'est là où le journalisme commence à être compliqué, intéressant, où soi-même on se dit « mon Dieu, je pensais ça, mais là j'ai changé d'avis ». Quand on commence à vaciller sur ses certitudes, là le journalisme devient bien. Et je pense que c'est le conseil que je vous donne. Allez voir là où vous dites « mon Dieu, mais ça, oh là là, je suis tout à fait contre ». Il y a par exemple un jeune homme qui m'a posé une question sur la prison. Et donc, en effet, j'ai dirigé l'OIP, qui est l'Observatoire international des prisons, pour faire entendre la voix et le droit des prisonniers. Et c'est une démarche qui peut choquer, qui choque beaucoup de monde. Vous connaissez ce qu'on dit en France, ils sont mieux traités que les SDF. Enfin, il y a tout un discours autour de ça. Et je pense qu'il faut aller voir. C'est une question qui dérange, donc c'est celle qu'il faut aller voir. Mais je vois que vous avez peu besoin de mes conseils puisque vous les avez déjà appliqués avant que je ne vous les donne. Mais c'est très bien, c'est le début de la profession, c'est ça.
Lors d'une interview, comment faites-vous pour déterminer si la personne dit bien la vérité ?
Alors, c'est le terme le plus générique de la profession de journaliste, c'est de dire, est-ce que tu as croisé tes sources ? Alors, croiser ses sources veut dire que vous ne vous fiez pas qu'à une seule personne qui vous dit quelque chose. Donc, par exemple, prenons ce japonais, hein, ce n'est pas polémique, il vous dit, il y a ce poisson qui est préparé comme ça. Donc, ce qui normalement, s'il fallait croiser... On vous dit, mais c'est vrai cette histoire de poisson, est-ce que c'est réel? Donc, vous allez essayer d'interviewer un deuxième japonais en disant, mais est-ce que vous avez entendu parler de ce poisson qui... Alors, si un deuxième japonais vous dit, oui, c'est vrai... Vous allez aller dans un restaurant japonais et vous allez demander, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et donc, vous demandez à plusieurs personnes la même chose pour voir si les réponses sont cohérentes.
Mais si c'est une affaire qui, d'une seule personne, comment vous faites pour... vous ne savez pas, en fait, réellement?
Non. Mais c'est difficile. La justice, d'ailleurs, c'est difficile. C'est une des choses compliquées, c'est-à-dire c'est... c'est ce qu'on appelle parole contre parole. C'est-à-dire que, imaginons un cas simple, une personne est accusée, elle se dit innocente. Comment savoir s'il a raison ou pas raison? Eh bien, vous allez faire un article. Ça veut dire qu'en général, vous avez deux points de vue contradictoires. Donc vous, dans votre travail de journaliste, la manière de procéder est de pousser ces deux logiques jusqu'à leur bout, si vous voulez. Et si la balance ne pense pas d'un côté ou de l'autre, vous donnez les deux versions. D'accord. Et donc, vous dites, selon Monsieur Machin, le poisson est faisable. Mais selon le restaurateur que nous allons voir, cette histoire est une fable, une légende qu'on raconte à propos des poissons au Japon. Mais vous n'êtes jamais allé au Japon. Finalement, vous avez un avis oui, non. Ben, vous mettez les deux.
Combien de pays avez-vous visité?
Oula, j'ai jamais compté. Je dirais 25.
Tous pour le travail?
Tous pour le travail. Enfin, quelques-uns non, mais la plupart oui.
Vous ne faites pas de voyage touristique?
Si, par exemple, je suis allée au Népal pour le tourisme. J'ai fait des marches, vous savez. Et donc, ou des choses comme ça. Mais la plupart des pays que j'ai visités, c'était pour le travail. J'aime bien ça. Hein. Pour moi, c'est une façon de voyager merveilleuse, de travail. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, j'ai du mal à partir dans un pays juste pour rien faire. J'ai l'esprit tellement déformé à force de voyager pour le travail que j'ai du mal à aller comme touriste. Donc je vais souvent dans des pays, par exemple, où je connais quelqu'un, où j'ai quelque chose à faire, mais j'y vais rarement en me disant, tiens, quel pays j'ai envie de voir, et prendre un billet d'avion, une place d'hôtel, ou un truc comme ça. C'est par des formations professionnelles, en fait. C'est bête, hein? Voilà, chacun ses problèmes.
Avez-vous tendance à aller dans des pays plutôt en crise ou en situation stable?
Plutôt en crise. Plutôt en crise, parce que les pays en situation stable... Sinon, on y va pour des rendez-vous plus conventionnels, c'est-à-dire qu'on va y aller pour des élections, parce qu'il y a une manifestation particulière ou une chose ou une autre. Par exemple, quand je fais ce reportage sur cette artiste tzigane, elle est autrichienne, donc ça se passe en Autriche. Donc le pays, l'Autriche, a un gouvernement stable, donc là, voilà. Mais... la plupart du temps, c'est plutôt des pays en crise parce que ce sur quoi on m'envoie, c'est la crise. C'est moins le pays. Et c'est le risque de ce métier-là. C'est-à-dire, c'est le risque de ce métier de grand reporter, c'est de devenir spécialiste des crises. Et donc, on va parler d'une crise et oublier le pays autour. Et finalement, il n'y a rien, j'allais dire, qui ressemble plus à une guerre qu'à une autre guerre. Et si on ne fait que ça, on a tendance à traiter la guerre et oublier l'endroit où elle se passe. Et c'est un très gros défaut, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser qu'on est quelque part avec des gens qui sont des êtres humains et la guerre n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le pays et les gens.
Et pour vous, quel est l'intérêt de partir faire un reportage dans un pays en guerre, justement ?
Ben, l'intérêt, c'est d'amener de l'information. C'est-à-dire que le but premier d'un journaliste, c'est d'arriver quelque part et de dire ce qui s'y passe. Alors, quand on est dans ce type de pays, des pays en guerre, des crises importantes, etc., on touche vraiment au cœur d'une situation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, moi, je ne vous dis pas quel est le dernier rebondissement dans les sondages, vous le saurez par ailleurs. Il y a 1000 façons de s'informer. Quand vous êtes dans un pays en guerre, bah, si vous n'y êtes pas, eh bien, on ne le sait pas. Ce qui est très, très enrichissant professionnellement, c'est que là, vous portez à la connaissance du public quelque chose qui est réellement des faits, des informations, etc. Et ça, c'est... quand vous réussissez à dire, voilà, à tel endroit, il s'est passé telle chose, et que vous êtes le seul, non pas parce que c'est prestigieux, mais parce que ça permet de le savoir, là c'est le cœur de son métier. C'est le cœur de notre métier, c'est de dire des informations, c'est pas de les commenter, ni de les tricoter à l'infini. J'adorerais aller en Corée du Nord. Vous voyez, la Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé du monde. Bon. Ben, vous dites, qu'est-ce qui s'y passe ? Donc, vous auriez envie d'y aller pour raconter ça. Malheureusement, on ne peut pas. Mais c'est ça, le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est d'informer, tout simplement.
D'accord, merci. Est-ce que ce métier est une vocation pour vous ?
Ça ne l'était pas à la base, mais ça l'est devenu. C'est-à-dire qu'à la base, je ne pensais pas spécialement être journaliste. Donc c'est un peu une suite de hasards qui m'a conduit à devenir journaliste, d'embranchement. J'ai fait ça, puis finalement ça ne menait nulle part, donc j'ai fait autre chose. Et en fait, cette vocation est venue en le pratiquant. Donc quand j'ai commencé à faire des reportages, je me suis dit, c'est génial, j'ai trouvé ma voie, quoi. Et donc je trouve ça très rassurant et j'aime beaucoup le raconter, parce que pour les jeunes gens, comme je l'étais en tout cas, qui tournait dans sa tête, mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais devenir ? En fait, vous voyez, parfois, ça arrive tout seul, et on ne l'avait pas prévu, et on découvre soi-même ce qu'on aime faire.
Et s'il vous plaît, ce métier ?
Ah, je l'adore. J'en changerai pour rien du tout.
Auriez-vous aimé de faire une web radio au lycée comme nous le faisons ?
Oui. Alors, nous, quand j'avais votre âge, on faisait, non pas des web radios, on faisait des articles et on les photocopiait. On faisait des espèces de journaux comme ça parce qu'il n'y avait pas de matériel pour faire des web radios, puis même pas l'idée des profs de faire des web radios, c'était hors de l'espace et du temps. Donc, on faisait les petits journaux qu'on faisait étaient non pas faits avec les profs, pour dire les choses, mais contre les profs. Donc c'était des feuilles comme ça, photocopiées, et on écrivait toutes les horreurs qu'on pensait des uns et des autres. Et donc on faisait des reportages dans telle classe, il se passe tel scandale, et dans telle... voilà. Et donc c'était évidemment pas signé, parce que c'était un tissu de protestation. Et donc on avait fait des actions contre le directeur qu'on estimait un horrible bonhomme, enfin bon. Et donc voilà, c'était plutôt ce genre de choses qu'on faisait. C'était pas du tout, c'était pas une radio comme celle-là. Je pense que on aurait adoré faire des radios comme ça. Et donc je pense que la façon dont on l'a fait, c'est un peu les blagues qu'on fait entre soi, entre élèves, sur les profs ou les parents ou Dieu sait qui. Et nous, on les écrivait sur le papier. On mourait de peur de savoir que c'est un tel qui avait écrit telle chose et telle autre.
Quel regard portez-vous sur le travail que nous faisons ici autour de la radio et du journalisme ?
Je trouve que c'est très enrichissant et c'est une très bonne idée parce que ça permet deux axes de choses. La première des choses, ça permet évidemment pour vous d'aller voir dans des endroits où vous n'iriez pas voir. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que rien ne vous oblige à aller voir un japonais, si ce n'est de le faire pour une radio. Et donc là, vous ouvrez tout grand les écoutilles et le panorama, et vous vous trouvez confronté à des choses inattendues, et ça, c'est très enrichissant. Donc ça, c'est formidable. Et la deuxième des choses, c'est le fait que face aux médias, la télé que vous voyez, l'Internet ou je ne sais quoi, ça, de le pratiquer vous donne aussi, d'une certaine manière, une façon de lire autrement quand vous lisez. C'est-à-dire que j'imagine que quand vous voyez... vous dites, par exemple, le poisson peut être empoisonné, nous dit monsieur machin. Donc, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui le pensez, ce n'est pas une enquête que vous avez faite, mais c'est quelqu'un qui vous l'a dit, qui s'appelle monsieur Intel. Si vous lisez « Il y a du poisson empoisonné au Japon », c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est vous qui le prenez à votre compte. Et donc, d'être confronté à ça et de voir comment elle est une information, d'où elle vient, comment elle est traitée, ça c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, les méthodes de diffusion permettent à tout le monde de dire à peu près n'importe quoi. Et c'est ça la grande différence avec la presse d'avant Internet. C'est-à-dire que la presse avant Internet, l'obstacle était la diffusion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas diffuser les radios, il fallait avoir une radio avec pignon sur rue pour diffuser. Un journal, il fallait pouvoir avoir des rotatives, le vendre, etc. Donc c'était des organisations et la diffusion bloquait. Le mode de diffusion bloquait le débouché des informations. Ça n'existe plus là, sur Internet aujourd'hui, vous pouvez balancer n'importe quel. Voilà. Et donc, ça nécessite une lecture, il n'y a plus un filtre de diffusion, et donc ça nécessite un œil autrement plus aguerri que quand je lisais la presse à votre âge. Et donc, la pratiquer permet d'avoir cet œil, permet de petit à petit s'initier à savoir qui raconte quoi, mais s'il dit ça, d'où il le sort, et voilà. Et ça, je pense que c'est cette double particularité que je trouve passionnante pour vous.
Est-ce que l'on a oublié de vous poser une question, quelque chose dont vous voulez parler ?
Quelque chose dont je veux parler ? Non, moi j'étais très contente de vous voir tous. Et c'est vrai que je ne savais pas trop, j'avais à la fois, j'étais très curieuse de vous voir et à la fois je ne savais pas trop ce que j'allais en attendre. C'est-à-dire je me dis, voilà, on se dit on va aller à Auch dans un lycée où il y aura deux types de personnes à voir, comment ça va se passer. Vous demandiez quelle tête j'allais avoir, moi c'est pareil, je me demandais mais à quoi ils vont ressembler. Et donc cette curiosité dont on parlait, quelque chose qui est différent de soi, moi, je l'ai eu avec vous, c'est-à-dire que ça m'a plu de savoir ce qui vous intéresse, c'est les reportages que vous avez faits. Voilà, j'ai l'impression de vous connaître mieux et ça m'a plu. Merci de l'invitation.
Merci.